Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Florent Missy.
Il est 9h05, bonjour à tous et bon réveil sur RMC, les grandes gueules du sport, comme tous les week-ends, jusqu'à midi pour vous aider à émerger en ce dimanche matin. Vous retrouverez Georges Quirino bien en forme le week-end prochain, mais en attendant, j'ai le plaisir de vous accompagner encore une fois ce matin pour de la bonne humeur, des débats, une bonne dose de mauvaise foi et de l'info en veux-tu, en voilà. Les GG présentent avec moi aujourd'hui, on est très omnisport ce matin, notre caution tennis, un homme qui la joue collective, vainqueur de la Coupe Davis est toujours prêt à venir taper quelques revers à droite, à gauche, mais toujours à deux mains. Julien Beneteau est avec nous ce matin. Salut Julien.
Salut Fleur, je ne m'attendais pas à ça.
C'est un compliment.
Mais j'ai mal regardé jouer.
Ouais, je t'ai vu battre Federer à Bercy tout de même.
Bah, t'avais oublié. T'étais focus sur Pourquoi Federer. Tu vas pas regarder que Federer.
Ça alors. J'ai dû confondre avec Roger.
Début de l'émission, t'as déjà appris quelque chose, Simon, en fait. Notre coach, aujourd'hui véritable personnage du football français, le plus savoyard d'entre tous, adepte des discours transcendantaux, il n'aura pas de mal à vous convaincre, vous verrez. Je parle évidemment de Pascal Duprat. Salut Pascal.
Salut Flora, salut les amis.
Salut Pascal.
Salut Pascal.
Il sera peut-être celui avec le plus de punch ce matin. Lui, l'ancien puncheur sur les routes, prêt à changer de braquet à chaque instant pour être le plus percutant. Jérôme Pinault est avec nous. Salut Jérôme.
Salut Flora. Je suis plus punch que punch maintenant.
Tu sais quoi, quand j'ai écrit punch sur ma feuille, je me suis dit attention, comment tu vas le prononcer. Il m'a d'ailleurs, Jérôme, expressément demandé que Christophe Cessieux ne soit pas dans l'émission aujourd'hui. Du coup, je l'ai écouté et je suis sûre que Simon Tutin va tout faire aujourd'hui pour nous montrer qu'on gagne au change. Salut Simon.
Salut Flora. Ah, je me disais que tu avais préparé une préparation, je sais pas, sur la pétanque, la belote.
Sur le golf, j'aurais pu.
Spécialité, oui, le golf éventuellement.
Mais a priori, faut que t'arrêtes le foot par contre. Hein.
Oui, mais ça, je le savais depuis longtemps.
Bon, comment ça va les GG ce matin?
En pleine forme. Grande forme.
Ouais, c'est vrai.
Ouais?
Ouais, très bien.
Réponse de vieux, mieux que le temps.
Ouais,
on va
bien.
Oh, d'accord, on va faire un débat météo maintenant dès 9h05 du matin. Très bien. Vous êtes avec nous évidemment jusqu'à midi sur AMC. On vous attend au 32-16 pour venir participer sur WhatsApp au 06-12-424-424. On attend vos petits messages pour venir titiller peut-être un petit peu nos GG. Voilà le programme du jour. La une des GG sur les enjeux de la dernière journée de Ligue 1 ce soir à 21h sur RMC évidemment, et notamment pour l'OM. Une place en Europa League pourrait-elle sauver la saison des Marseillais? Le ring des GG aujourd'hui après le documentaire Netflix sur Nice Nine, les révélations du journal intime de Raymond Domenech. Un coach peut-il détester ses joueurs? C'est la question qu'on se posera. Captain Pinault viendra nous dresser les louanges de l'autre petit prodige du cyclisme français, Paul Magnier, la nouvelle rockstar tricolore. Et puis enfin, les GG nous ouvriront leur vestiaire pour vous parler de la retraite et des difficultés qu'ils ont pu ressentir ou non, d'ailleurs, au moment où leur carrière s'est arrêtée. Vous en avez l'habitude en fin d'émission, évidemment, les jeux du sport pour vous faire gagner, chers auditeurs. Ce week-end, on vous offre votre partie box portable Bluetooth de la marque française Muse, une enceinte puissante avec lumière d'ambiance multicolore et un micro filaire pour la remporter. Appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 73216. Sport au 73216. Bonne chance à tous. Voilà pour le programme des GG ce matin, qui sont déjà en train de débattre de qui va être avec qui tout à l'heure dans les jeux du sport.
Non, je rappelais à Bennett que je lui ai mis une manita la dernière fois qu'on a fait les jeux ensemble. Et
tu lui as dit que tu avais perdu hier du coup?
Non, pas encore, mais.
Il y a des.
Ah, je suis tombé sur une très grande Marion Bartoli.
Il est mémoire sélective.
C'est ça.
Moi, il est entré dans ma tête, Benetto, depuis mais que non. Je sais que. Mais quand non. Je suis au jeu avec lui, je suis démoralisé dès le départ, tu vois.
On verra les équipes, peut-être que tu seras avec lui. Bah, que
ça serait
coûtes.
Bien de temps en temps que j'en gagne une quand même.
Pino Benedetto,
bon, moi, je gagne
bien,
souvent. Hein.
Ouais, Pascal, t'as raison de le rappeler aussi.
Moins que Julien, mais je gagne souvent quand même.
Donc il y a du niveau pour les jeux du sport tout à l'heure. Soyez au rendez-vous vers 11h45 en fin d'émission. On va démarrer direct dans le vif du sujet avec la une des GG, alors que se profile ce soir une très chaude dernière journée de Ligue 1. Multiplex à suivre en direct sur AMC dès 21h avec Jean-Louis Tour et tous les reporters sur place pour ne rien manquer. After exceptionnel jusqu'à minuit et demi ce soir pour tout vous faire vivre des réactions de cette dernière journée. Il y a encore beaucoup d'enjeux et notamment pour l'Olympique de Marseille qu'il est temps d'ailleurs que cette saison se termine pour des Marseillais qui ont pourtant tout intérêt encore à se battre pour décrocher une place en Ligue Europa la saison prochaine, ne serait-ce que pour oublier les derniers mois.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
un coup de poing dans la bouche et la sécurité qui vient pour te séparer, mais on est où? On est là pour faire du football.
Les commentaires, c'est quelque chose d'inouï.
Chevalier, attention, le but marseillais, c'est terminé. Marseille s'impose, 1-0.
Cette année, on va vous taper.
Le but est éliminé. Incroyable, c'est le gardien de Fekir qui marque.
En fait, tu joues Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes. Et certains peuvent penser que nous, on accepte.
L'OM et Roberto De Zerbi, c'est fini, séparation d'un commun accord officialisé.
Il faut qu'on arrive à ressentir ce qu'est l'Olympique de Marseille. Pour moi, il faut respirer cette ville, il faut la ressentir.
Oh, le but d'Olivier Giroud ! Olivier Giroud qui vient peut-être donner la victoire aux Lillois.
2-0, victoire nette et sans bavure de la part des Lorientais.
Quand tu joues Lorient, qui n'a plus rien à jouer à 17h, et que tu gagnes pas un duel et que tu n'as pas une course vers l'avant, pas entreprenant, tu tentes rien.
Ablin qui rentre dans la surface de réparation du numéro d'Ablin.
Quand tu rentres ici, quand tu as 5 finales à jouer pour un objectif de Ligue des Champions, et ça doit se voir, sauf que ça se voit pas.
Les Marseillais sont hors de la Ligue des Champions.
On parle de quoi? De couilles, d'amour propre, de respect, respect du maillot qu'on porte, du respect des gens.
Florilège de cette folle saison marseillaise. L'OM qui reçoit Rennes au Vélodrome. 3 points d'écart au classement entre les deux équipes, mais une différence de but favorable à l'OM. Une victoire et les Marseillais chipperaient donc la 5e place à leur adversaire du soir, synonyme de Ligue Europa. Mais est-ce que cette éventuelle qualification dans la 2e Coupe d'Europe suffirait à sauver cette saison difficile pour les Marseillais? Avant de développer, on va accueillir Flo Germain pour en parler avec nous. Salut Flo.
Salut Flora, salut à tous.
Toujours en vie, Flo.
Salut Flo. On est là.
Toujours en vie.
Toujours présent.
La saison se termine bientôt. Courage. Il y a de l'enjeu sportif ce soir pour l'OM avec cette qualification en Europa League, on en parlait. Mais clairement, les supporters, là, ils n'ont qu'une seule envie, c'est que ça se termine parce qu'elle aura été épuisante cette saison du début à la fin.
Voilà, c'est vrai. Épuisante pour tout le monde. Donc les supporters, évidemment, les acteurs du club, on a entendu la nervosité dans la petite production. Même pour nous, les suiveurs, c'est vrai que c'est une question qui revient entre journalistes qui suivent l'OM depuis très longtemps. On se demande si c'est la pire saison là des 10, 15, 20 dernières années. Il y en a beaucoup qui répondent oui, ou à égalité avec la 2020-2021 qui avait donné lieu au malheureux incident de la commanderie. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est sûrement l'une des pires. C'est que, déjà, tout le monde s'attendait à mieux, hein, parce que, rappelez-vous, septembre-octobre, on a entendu Marseille qui bat le PSG, certains supporters rêvaient, il y en a d'autres qui restaient pragmatiques, mais en gros, personne s'imaginait que l'OM ne terminerait pas sur le podium. Donc, les suiveurs et supporters, surtout de l'OM, sont tombé de haut. Il y avait le sentiment que l'OM progressait et était sur un projet assez solide. Bah, tout a volé en éclats, hein, de Mehdi Benatia qui part, ça a été encore officialisé hier, De Zerbi, Longoria, etc. Et puis épuisante, Flora, dans les péripéties, parce que la liste est trop longue pour tout détailler, mais depuis la bagarre Rabiot, on a l'impression que c'était il y a 3 ans, mais non, c'était en début de saison, hein, c'était là, hein, c'était au mois d'août. Les buts dans le temps additionnel, en veux-tu, en voilà, en Ligue 1 ou au Trophée des Champions, qui a été aussi une bascule, là, ce but de Ramos qui finalement prive l'OM d'un petit trophée qui aurait adouci peut-être la saison. La Ligue des Champions chaotique, la vraie fausse démission de Benatia, l'élimination en Coupe de France contre Toulouse, même l'extincteur d'Aubameyang, qui nous ont fait ça quand même à la commanderie lors de la mise au vert. Donc liste interminable. Et puis j'insiste sur un point qui à mon avis est très important pour expliquer le fait que les supporters sont désabusés et que c'est l'une des pires saisons de ces derniers temps. C'est qu'on a touché à quelque chose qui va peut-être vous faire sourire, mais vous savez, il y a cette banderole fière d'être Marseillais. On a touché cette saison à cette fierté qu'ont les supporters olympiens avec des épisodes qui ont ridiculisé l'OM. Le but de Troubine à la dernière seconde, là, le gardien de Benfica, alors que Marseille avait joué à la baballe en défense pour maintenir un score et pas prendre un but de plus contre Bruges. Le fiasco au Parc des Princes, le 5-0. Enfin, il y a eu des épisodes qui ont fait très très mal à la fierté de l'OM, et surtout qui a une perspective et une question concernant les perspectives, c'est où va Marseille. Voilà, où va Marseille. Les supporters sont très inquiets. On a du mal à avoir un projet financier.
Arrête
sportif.
Là, Flo,
qu'est-ce qui va se passer
déjà?
Donc, non, mais c'est vrai.
Que un tiers de la saison de l'OM.
Donc voilà. Donc le tableau, il est très clair. Vivement que ça se termine. Ah, oui. Bon, la saison, elle est il pathétique. Est
très clair.
Et je pense qu'une qualification en Ligue Europa ne sauvera pas la saison, mais ça sauverait éventuellement la suivante avec au moins l'idée de finir sur un petit sourire et d'avoir ce bonbon de la Coupe d'Europe qui est quand même important à Marseille la saison prochaine. Je vous ai pas ruiné le moral, non, ça.
Non, mais le talent.
T'as posé.
Mais
en fait,
le temps de la formule, la fin, c'est exactement ça.
Exactement.
Flo, ce sont des consultants, tu es journaliste. Voilà.
Il a donné l'avis, effectivement, qu'on attendait ce matin dans la question de la une des GG. On va quand même écouter aussi un homme qui est dans le viseur et qui sera sans doute pas sur le banc de la saison prochaine de l'Olympique de Marseille. C'est évidemment Habib Bey, qui retrouve d'ailleurs son ancien club Rennes. Pour lui, une qualification en Ligue Europa la saison prochaine, n'est pas à prendre à la légère.
Non, mais c'est pas une question de sauver la saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pas non plus de se dire c'est pas si mal. C'est-à-dire que pour moi, si on utilise ces mots, c'est manquer de respect à cette compétition. Je reviens sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette saison qui est face à nous aujourd'hui à date, c'est de se qualifier pour l'Europa League. Et si on se qualifie pour l'Europa League, il faudra avoir de la satisfaction de se qualifier pour cette compétition-là. Après, on pourra revenir sur la lecture de la saison, les déceptions, le fait qu'on n'ait pas atteint l'objectif prioritaire. Il y aura pas de problème avec ça. Mais mon focus aujourd'hui à moi, c'est Rennes à domicile dimanche et de se qualifier pour cette compétition qui est une compétition importante et que le club doit valoriser et que nous on doit tous valoriser tout simplement.
Alors les GG, je vous pose cette question
ce matin.
Il ferait
un bon consultant à Bébé. Hein.
Ah, Jérôme.
Il l'a déjà prouvé, effectivement. La qualification en Ligue Europa sauverait-elle la saison marseillaise ? Simon. Non. Pascal.
Non. Non. Pardon.
Très bien. Jérôme.
Allez, je vais dire oui.
Mais il y croit pas. Il est vraiment, il
pas
se.
Tellement.
Moi, je dis non. Mais il a dit oui, il s'est dévoué, là, pour le débat. Mais
il s'est dit qu'il fallait qu'il y en ait un qui soit un petit peu
mec,
courageux.
T'as perdu ça.
Ah, moi, je l'ai perdu, là.
On attend aussi, évidemment, votre avis supporter marseillais au 32-16 dans le WhatsApp d'RMC pour venir participer. J'ai envie de t'entendre, du coup, Jérôme, défendre l'indéfendable presque pour toi. Et essayer de convaincre un petit peu les autres autour de la table qui sont très catégoriques ce matin.
Les convaincre, ça va être difficile. Mais en tout cas, comme l'a dit Flo, je pense que ça peut sauver surtout ce qui peut se faire l'an prochain, attirer des joueurs, mettre en place un énième projet. Et surtout, je suis assez fataliste et je trouve que ce club que j'aime tant est finalement simplement un bon club pour l'Europa League. Et ce serait déjà pas mal. Parce que ça fait tellement longtemps que l'OM tourne après et va en Ligue des Champions parfois et fait de la figuration. On se fait
alors,
dégommer
la Ligue
de partout.
Des Champions, c'est quand même le projet annoncé
oui,
de
mais,
base.
Mais
par
le projet,
les
tu sais, il y en a beaucoup des projets. Quel sera le prochain? Quand tu te retrouves en fin de saison avec Habib Bey sur le banc, tu peux pas avoir de projet Ligue des Champions. T'es un petit club. Ce soir, tu vas jouer contre un club.
Ça va, Pascal?
Tu vas jouer ce soir contre un club qui l'a viré pour jouer en Europa League. Donc, t'as raté quelque chose.
Et un club qui, en plus, va beaucoup mieux depuis que
Habib Bey est parti. Plus là, hein, bizarrement. Et donc, du coup, moi, je trouve que ce serait déjà pas mal. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça pour un club comme l'Olympique de Marseille d'avoir un vrai projet sur du long terme avec l'Europa League pour se relancer, pour mettre des choses en place. Parce que là, ça va être le bazar cet été. C'est obligé.
Ouais. Vu la saison, oui.
À moins que les deux copains restent en place, Benatia reste en place.
Ah non, il part.
Voilà.
Jérôme, ouais, t'es vraiment supporter de l'OM?
De moins en moins. Alors, pas avec cet entraîneur-là. Pas avec cet entraîneur-là, ça, c'est sûr.
Non, il part.
Réponds-moi franchement. Parce que, en fait, tu oublies une chose prépondérante quand on voit cette saison. Son déroulement, Marseille était en janvier second de la Ligue 1.
Mais ils se sont mis le pied tout seul.
Malgré l'auto-flagellation que le directoire s'inflige, Marseille était second. Donc tu peux pas me dire que la Ligue Europa aujourd'hui serait une consolation à l'autre consolation.
C'est quand même mieux que rien.
Est-ce qu'on n'est pas d'accord, Pascal, qu'à part le Paris Saint-Germain en France, il y a qu'un club qui est capable de briller en Ligue des champions.
Mais c'est le moins disant parce que Marseille, si on prend l'équipe en début de saison, pour le premier match, malgré qu'ils aient perdu à Rennes, eh bien cette équipe-là, elle était taillée pour être sur le podium et je vais dire pour être le dauphin du Paris Saint-Germain. Tout simplement. Donc dès la première journée, ils sont fait harakiri. Dès la première journée, à l'issue de la première journée, celui qui vantait comme étant un exemple depuis une saison, depuis son arrivée, cette excellente pioche que représentait Adrien Rabiot, tout d'un coup, c'était une persona non grata parce que il avait envoyé un bourre-pif apparemment dans les vestiaires à un de ses collègues. Ok, et le fait qu'il envoie un bourre-pif, voilà pas qu'un autre de ses collègues s'est évanoui sur le coup, dit tellement il était choqué le mec. Ok, et à partir de là, on descend. sent donc la construction de cette équipe qui était équilibrée avec ce joueur international. Il va faire la Coupe du Monde, hein, là, il n'y a pas eu de débat. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Mais après, dégringolade en dégringolade, avec un directeur sportif qui prend la parole, ouais, mais qui dit qu'il démissionne à un moment donné. Et puis après, il démissionne pas, il est tout d'un coup le patron. Et ça fait virer le président. Mais ils ont construit l'échec. Ouais, alors aujourd'hui, donc s'ils sont européens, eh bien, tant mieux pour le foot français, tant mieux pour l'OM, mais il faut repartir encore plus de zéro.
Ben oui.
Julien.
Voilà.
Non, bien sûr, moi je suis d'accord avec Pascal sur le fait que ça sauvera pas du tout la saison. J'entends ce que dit Bey quand il dit il faut pas prendre la Ligue Europa comme
ça restera quand même une Coupe d'Europe. Il faut imaginer que pour reconstruire un projet, voilà, effectivement, c'est ce que disait Flo.
Combien de clubs français ont gagné les coupes d'Europe,
il n'y en a pas beaucoup.
Marseille est en finale de cette Ligue Europa.
Donc justement, ce que dit Flo, c'est totalement vrai, c'est-à-dire que ça sauvera pas cette saison. Mais en tout cas, ça peut préparer la suivante si elle a la Ligue Europa. Là-dessus, Flo, il a trouvé la formule parfaite parce que c'est exactement ça. Mais si on revient à notre débat, c'est cette saison. Moi, cette saison, je suis supporter de l'OM. Bon, évidemment, il n'y a pas de titre. La Ligue des Champions, c'est un fiasco total. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Mais honnêtement, il y a un désamour. Il y a un désamour profond vis-à-vis de cette équipe, vis-à-vis des joueurs. Il y a les dirigeants. De Zerbi, Benassia, Longoria. Moi, j'en veux plus à Benassia et Longoria qu'à De Zerbi, même s'il a claqué la porte, mais je me dis qu'il a
pas. Il y a peut-être des raisons derrière.
On a dû lui ouvrir la porte. Voilà. Il lui a entrouverte.
Alors que si on croit vraiment en lui, à un moment donné, peut-être qu'on le chope, on lui dit attends. On a perdu la Bruche, un truc, l'autre, il nous met un but à la 96e, oui, à Benfica. On est deuxième ou troisième du championnat à ce moment-là.
Il n'y a pas de raison de paniquer, on va
prendre 48 heures, on va tout faire redescendre. Bon, ça a volé en éclats. Et derrière, les joueurs, aujourd'hui, cette équipe, l'identité de cette équipe, mais les joueurs, mais il y a 15 jours ou 3 semaines, j'ai poussé un peu un coup de gueule, mais je ne peux plus les encadrer, les joueurs.
Mais il y a tout à refaire.
T'es allé voir le match à Nantes.
Contre Nantes, ils n'ont pas joué.
Ah, t'es pas allé voir le bon en plus là pour
non,
le coup.
Mais ouais. c'est,
Nantes
c'est,
a gagné.
Mais les joueurs. Et donc aujourd'hui, tu as envie de repartir avec qui? Tu gardes qui dans ton équipe entre?
Et ça veut dire que potentiellement, tu repars encore de zéro.
Non, mais bien sûr, il ne faut pas repartir de zéro. 0-0, c'est-à-dire qu'il faut en garder. Et c'est là où après, j'ai envie de croire et un président, Monsieur Richard, qui vient pas du football, mais qui met un directeur sportif qui connaît le football avec d'autres moyens comme Grégory Lorenzi, avec forcément il va falloir qu'il choisisse un entraîneur, et j'ai envie de croire et d'espérer que ils peuvent identifier 4-5 joueurs ou 3-4 joueurs de l'effectif actuel qui peuvent être titulaires pour l'année prochaine, identifier quelques joueurs qui peuvent rester dans le groupe, être des joueurs d'appoint, et après de recruter,
faire du ménage
et de recruter avec les moyens du bord pour construire une équipe qui soit compétitive en Ligue 1.
Simon.
Moi, je voulais commencer en soulignant que j'adorais la formule de Flo. Ça ne sauvera pas celle-là.
On fait un t-shirt.
Ah, quel talent. Non, mais bravo. Et en effet, il a tout à fait
il
raison.
Il a posé les bases.
Souvenons-nous d'où nous partons. Les copains ont rappelé les différents épisodes qui ont émaillé la saison de l'OM, qui auraient pu, malgré. Tu vois, Pascal, malgré ce début, cette défaite à Rennes, on aurait pu s'en relever. Je pense qu'il y a eu une volonté de la part des dirigeants de montrer que les cuissons étaient plus épais que la réputation des joueurs. Mais quand tu vois,
ils s'en sont relevés à ce moment-là. Mais,
ouais. Oui, et c'est ce que j'allais te dire, c'est que malgré le fait de laisser partir Rabiot, c'est un patron de l'équipe de France
quand même.
On parle d'un immense joueur. Comment à un moment tu peux te dire que et un mec qui avait remis de l'ordre dans le vestiaire après des défaites à Auxerre, je crois notamment, qui à Reims aussi surtout. Oui, voilà, et qui mettait du ciment entre les gars qui.
Après, précédemment, De Zerbi avait laissé partir Rongier aussi. Hein,
Rabiot, c'est quand même un cas à part. Et ils s'en sont pas relevés. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, un Jonathan Rowe qui est parti à Bologne dans l'anonymat. Qui est valorisé à 50 ou 60 millions d'euros, qui a été une des découvertes.
Depuis son pote, ils font des belles photos.
Milan, c'est pas très loin, et ils se retrouvent de temps en temps.
Mais encore une fois, souvenons-nous d'où on partait, parce que en effet, l'OM était taillé pour être la meilleure équipe du reste du championnat.
Bien sûr.
Et ce qui est fabuleux, c'est quand tu te retournes, tu te dis à quoi peut tenir une saison. Parce que tu as envie de croire, là je parle sous ton contrôle, Flo, que à 20 ou 30 secondes près, le trophée des champions, il peut faire basculer la saison de l'OM dans une autre dimension, parce que c'est une saison où en plus le PSG laisse la Coupe de France à ses adversaires. Mmh. Et tu te dis, si en regardant le PSG dans les yeux, tu leur piques le trophée des champions, même si bon, au niveau palmarès, c'est pas exceptionnel.
Non, mais
tu te dis que
le vrai tournant,
tu te dis que la sauce de Zerbi, elle peut finir par prendre.
Mais moi, je pense que le vrai tournant, c'est Benfica.
Mais si
le gardien de Benfica marque pas ce but.
Mais tu perds 3-0 à Bruges.
D'accord, tu perds.
Mais t'es qualifié.
T'es qualifié.
Mais le feu, il est éteint tout de suite. Le feu, il est éteint tout de suite. Objectif atteint. T'es en 16e de finale.
Tournant, c'est Rabiot. Ah, oui. C'est parce qu'à partir de là, on envoie de mauvais signes.
Oui, mais
quand t'es dans un vestiaire,
ils ont été
quand t'es dans un vestiaire, vous l'avez été, même collectivement, tu te retrouves avec un joueur qui peut-être déconne sur le coup, mais est immédiatement sanctionné alors que jusqu'alors on lui serrait les pompes. Donc fatalement, quand t'es joueur, tu te dis écoute, je vais rester dans mon petit coin. C'est ok, je vais essayer de pas me singulariser. Et surtout, les dépassements de fonction comptaient pas sur moi. Donc à partir de là, petite minute où il faut serrer les coudes pour pas encaisser, eh ben t'encaisses. Le trophée qui t'est promis, eh bien tu le perds, tu sais pas comment. Et la qualification pour les 16e en Ligue des Champions, eh bien elle se joue ailleurs qu'à Bruges. Donc à partir de là, ben ta saison elle part en
sauce. C'est pas un hasard s'il y a eu autant de buts, je pense, dans le temps additionnel, c'est qu'à un moment donné ça reflète une fébrilité ou une nervosité ou un manque, comme le dit Pascal, de charisme, où à un moment donné tu dois faire parler ceux qui ont de l'expérience, ceux qui sont costauds, et je pense que la nervosité ambiante, elle s'est ressentie sur les fins de match, où au final tu craquais, et si t'enlèves ces fins de match-là, c'est pour reprendre une formule de Rudy Garcia, si t'enlèves les buts encaissés dans le temps additionnel ou autre, au final t'es un peu mieux, donc c'est pas un hasard.
Ça, c'est l'apanage de tous les clubs, c'est pareil. Hein.
D'accord, j'entends ce que vous dites, Pascal et Flo, là-dessus, mais derrière, les semaines qui suivent cet événement, au Real Madrid, premier match des champions, c'est au mois de septembre. Tout le monde s'accorde à dire pour dire que l'OM a fait un des meilleurs matchs de sa saison et qu'ils n'étaient pas loin. Au Sporting, ils font une super première mi-temps. Ils battent le PSG à ce moment-là en championnat.
C'est une belle période, septembre-octobre.
Bien sûr, qui nous dit qu'avec Rabiot, ça n'aurait pas été encore mieux?
Oui, mais d'accord.
Au Real, par exemple.
D'accord, mais on peut quand même s'accorder à dire qu'ils ont fait, grosso modo, une bonne première partie de saison, qu'elle était encourageante, qu'on pouvait légitimement penser qu'ils allaient, terminer 2, 3.
Ça a toujours été ça. Et le problème de cette saison, c'est toujours été comme ça.
À cette époque-là, on se dit, même 3, ça pourrait être décevant. Et c'est la deuxième force du championnat.
L'objectif, c'était de concurrencer le Paris Saint-Germain. C'était l'adversaire du Paris Saint-Germain.
Mais deux Herbie à sa part de responsabilité.
C'était la bonne saison pour.
Je tiens à préciser, deux Herbie. Pourtant que j'aime beaucoup, parce que en plus je trouve qu'en communication c'était quelqu'un de très intéressant. Il a sa part de responsabilité. Moi, depuis qu'il est parti, on me raconte quand même beaucoup que dans son staff, on n'arrêtait pas de lui passer le moindre article, la moindre polémique, la moindre critique. Et du coup, il a pas su prendre le recul. Moi, c'est un gros défaut, je pense, à Marseille, prendre le recul nécessaire. Alors qu'il avait une saison de background derrière lui, où il savait que c'était spécial Marseille. Il y avait eu des polémiques arbitrales, etc. Fallait se protéger de tout cela. Et je pense que il aurait été intelligent de prendre un peu plus de hauteur. De Zerbi, il a assez de caractère, normalement un peu de bouteille, et il devait pas comme ça se prendre de plein fouet la pression marseillaise. Moi, il a commis une erreur.
C'est surprenant de la part d'un De Zerbi qui, par ailleurs, lorsque dans les périodes sereines ou après des victoires, a justement une éloquence et une assurance face aux médias. C'est surprenant, je trouve, de l'avoir vu progressivement dégoupiller à petit feu à mesure que les défaites. Après,
gardez vos arguments, on va marquer une courte pause et puis on va revenir juste derrière, justement pour continuer de parler d'Olympique de Marseille et de cette dernière journée de Ligue 1. Je savais que ça allait vous faire réagir. Il est 9h29 sur RMC, la une des grandes gueules du sport, ça revient juste après ça.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
9h32 sur RMC, on est de retour dans les grandes gueules du sport. On vous accompagne jusqu'à midi avec Simon Dutin, Julien Beneteau, Pascal Duprat et Jérôme Pinault. On est toujours avec Flo Germain aussi pour parler de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, on vous attend au 32-16. Venez participer avec nous parce que ça fait débat. En ce moment, on se demande si une qualification ce soir pour la prochaine Ligue Europa sauverait la saison catastrophique de l'Olympique de Marseille. Ça a fait beaucoup parler en plateau. On va parler aussi avec Joris qui est avec nous au 32-16, supporter marseillais. Salut Joris.
Bonjour à tous.
Bonjour Joris. Salut Joris.
Alors, est-ce que tu penses que cette qualif, cette potentielle qualif qui n'est pas acquise encore, sauverait la saison marseillaise ?
Non, elle ne sauverait pas la saison, puisque, comme l'a très bien expliqué Flo, il y a tellement eu de rebondissements et de désastres autour de tout ce que nous attendions. Donc, non. Mais à côté, certains presque. Serait satisfait qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe du tout. Non, il nous faut une Coupe d'Europe parce que c'est toujours intéressant. Et puis après, il faut avoir même l'humilité en étant français de se dire que de jouer l'Europa League, c'est déjà bien, puisqu'on n'est pas non plus coutumier du fait à soulever des trophées en Europe, mis à part l'autre club que je ne citerai pas, par défense de supporters.
La fin de saison va être dure pour toi.
Ne vous braquez pas, je plaisante. Et là, il n'y a rien de nous épargner jusqu'au bout. On aura eu tout jusqu'au bout, même avec ça. Mais par contre, il y a un truc qui me... Je suis stupéfait, moi, tout le temps, depuis. C'est-à-dire que jusqu'à janvier, où à peu près ça allait, avant que l'équipe se casse la figure, personne ne parlait de l'Adrien Rabiot. Ou très peu. Bon, on avait parlé au mois d'août quand il est parti, et c'était normal. J'aurais aimé qu'il reste forcément, parce que c'était un très bon joueur et il nous aurait aidé. Mais je suis pas, parce que ça, après, tout le monde a fait du fiction avec ça. Si Rabiot était resté, c'était mieux.
Ah, moi, j'en ai toujours parlé. C'est Pascal qui parle, j'en ai toujours parlé.
Pascal, je sais, mais c'est pas parce que Pascal, tu en parles, que tout le monde en parle, tu vois ce que je veux te dire.
Ah, et Pascal a beaucoup d'influence, hein.
Non, mais c'est pas ce que je dis. Mais moi aussi, j'étais très triste qu'Adrien Rabiot s'en aille, mais je sais pas s'il était resté dans l'équipe, si ça serait mieux passé ou non. Ça, c'est que de l'interprétation et c'est ce qu'on imagine. Parce que quand même
a priori, Yoris, avec un joueur international qui est encore sélectionné pour aller à la future Coupe du Monde, t'es toujours meilleur avec des bons joueurs, en général.
Oui, oui, mais
peut-être
moi, je
pas
sais l'OM, que
mais en général, t'es bon avec des bons joueurs.
Mais ce que je sais, c'est que la saison dernière, même avec Adrien Rabiot, on a quand même fait 9 défaites en Ligue 1. On a quand même été éliminé en Coupe de France. Et il y avait quand même Adrien Rabiot. Et ça n'a pas empêché qu'on fasse 2 retiros, qu'on aille à Rome et compagnie, alors qu'il y avait Adrien Rabiot dans l'équipe. Moi, je ne sais pas avec tout ça. Si, alors, sûrement, ça aurait été peut-être mieux. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais à côté, je veux aller vers là. On avait essayé quand même de recruter des joueurs avec de l'expérience. Et c'est manqué là aussi, on est d'accord. Pierre-Emile Hojbjerg n'a jamais pris le leadership de cette équipe. Peut-être que Benjamin Pavard n'était pas aussi influent que ça, et ça s'est vu. Balerdi n'a jamais pris ce qu'il devait prendre. Aguerd, pareil. Kondogbia, pareil. Il y a plein de joueurs, on comptait dessus, qui ont failli. Et ça, c'est factuel, et on le voit, et ça, on ne peut pas revenir en arrière.
Ouais, c'est collectif. Il y a Simon qui voulait réagir avec toi.
Non, mais c'est simplement pour dire qu'en effet, je pense que c'est le pari qu'ont fait les dirigeants marseillais, de se dire que le projet de Zerbi était plus fort qu'une individualité, aussi forte soit-elle que Adrien Rabiot. On a voulu montrer que le club était au-dessus et que
après, c'est jouable dans tous les grands clubs européens.
Exactement,
ça fonctionne,
c'est une façon de s'identifier à des grandes institutions, et l'OM en est une. Mais en effet, à la lecture de la saison, quand tu te retournes et que tu regardes dans le rétro, tu te dis qu'effectivement, peut-être qu'un Rabiot aurait fait du bien. Mais le crédit, au moment où Benatia, il t'explique que voilà, c'est Rabiot, et ben tu sais quoi, les règles, elles valent comme pour le mec qui sort du centre ou un international. Mais tu te dis, voilà, le projet est plus fort. Et tu te demandes d'autant plus, du coup, quelques semaines plus tard ou quelques mois après, pourquoi le projet avec De Zerbi, il n'est plus aussi fort, et que tu laisses ton entraîneur lâcher prise et tu te dis finalement, bon allez, De Zerbi, voilà, il veut plus, il n'a plus envie, on va y aller avec un autre. Et tu te dis, bah, si le projet il est assez fort pour laisser partir un mec de la stature de Rabiot, eh ben, le projet il doit être assez fort pour résister à la tempête médiatique, à la pauvreté des résultats, à la crise sportive. Et quand bien même on finirait qu'en Europa League, parce que c'était encore au moment où De Zerbi s'en va, tu te dis, bah, l'OM, ils vont finir aller 4... Max, et ce sera déjà une déception. Tu te dis, pourquoi le projet De Zerbi il est plus aussi fort qu'en début de saison? Que s'est-il passé?
Et donc, déjà, De Zerbi est plus là.
Tu te retrouves avec... Moi, j'ai été stupéfait par les déclarations d'Habib Bey, qui nous a quand même rappelé au départ que malgré les défaites, bon, il était arrivé plus loin de la Ligue des Champions qu'il n'en était au moment où il était interrogé.
Et désormais, la Ligue Europa, c'est une belle compétition. Je parle sous ton contrôle. Il a convoqué les souvenirs du but de Sakai, non?
Oui, en 2018. En disant, oui.
Regardez ses émotions et tout. Ça va leur faire une belle jambe aux joueurs qui sont restés pour lui. Alors
après, il est lucide sur ce que peut réaliser aussi l'Olympique de Marseille.
Il essaye de fédérer autour de ce dernier match. Et en plus, il sait que les supporters sont un peu boudeurs. On surveillera l'ambiance tout à l'heure au Vélodrome. Je pense que le fait de pouvoir accrocher la 5e place et que ce soit une finale, ça va quand même motiver les fans de l'OM à donner un peu de la voix, même s'il y aura des banderoles et certains vont rester silencieux au début. Mais voilà, je pense que le but du jeu pour lui, c'était quand même de fédérer avant cette rencontre qui peut un peu changer la saison.
Et la saison prochaine aussi, tu l'as rappelé, Flo. Merci Flo d'avoir été avec
merci
nous ce
vous.
Matin. Salut, bon courage pour ce soir.
Flo. Ciao, les amis.
Qui t'annonce, évidemment, tu seras dans le multiplex sur RMC avec Jean-Louis Tour et toute l'équipe. Merci à Joris aussi, supporter marseillais, d'avoir été avec nous ce matin. Rapidement quand même, messieurs, il y a d'autres enjeux dans cette soirée de Ligue 1 dans le multiplex. On parlait de la Ligue des Champions, justement. Il y a Lyon qui va tenter malgré tout d'aller chercher cette place directement qualificative. Lyon qui a perdu le week-end dernier sa 3e place au profit de Lille après sa défaite face à Toulouse, je vais y arriver. J'en perds mon français. C'est ta défaite hier dans le jeu, Simon, sur cette question.
Bien sûr.
Je rappelle, d'accord, évidemment, maintenant. Oui. Est-ce que ça vous semble probable, cette qualification de Lyon pour la prochaine Ligue des Champions après avoir perdu la 3e place la semaine dernière, Pascal?
Non. Non, parce que.
Pascal, non, parce il que ment Lille, sur tout
non.
ce matin.
Non, mais parce que Lille a réussi, le tour de force, le dernier match, de battre Monaco et de profiter de la défaite de Lyon à Toulouse pour s'emparer de la 3e place. Or, ce dernier match qui se jouera à Lille contre Auxerre, à mon sens, l'équipe de Bruno Genesio, même s'il sera difficile, va pas laisser passer la chance de terminer 3e et de battre Auxerre.
Auxerre joue ça sur lui, Pascal.
Oui, d'accord, mais Lille joue la 3e place. Oui, donc, ce match va être tendu, mais je vois pas les Lillois laisser passer cette occasion là. Et Lyon même en battant Lens qui va être démobilisé,
qui n'a plus rien à jouer, hein.
Tourné vers la finale de la coupe, Lyon, si Lille gagne, Lyon finira 4e.
C'est déjà exceptionnel pour Lyon.
C'est déjà exceptionnel pour Lyon. Tu m'as coupé
Lille, et Lille est un club qui mérite cette 3e place, régulier, solide, avec un bon coach, un bon président. Ça roule bien à Lille. Ouais. Et moi, je suis comme toi, Pascal. Je vois pas Lille flancher. Je pense que Lyon, c'est fourvoyé la semaine dernière à Toulouse. C'est clair. Mais ça reste miraculeux, quoi.
Bon, ça doit être aussi tendu à Lille comme dans beaucoup de clubs professionnels. Parce que le président, il est pas simple non plus. Même s'il est excellent et très intelligent, il défend les intérêts de son club. Mais ça transparaît pas. Si t'es mieux, t'as quand même l'impression d'une ligne de conduite à Lille que tu ne trouves pas, par exemple, à Marseille. On en parlait il y a quelques minutes.
Je savais que Marseille allait revenir dans le débat.
Moi, je suis d'accord avec Pascal. Si je devais parier, je dirais que c'est Lille qui va finir troisième.
Qui est actuellement troisième. Hein.
Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que cette équipe de Lyon, je me souviens que l'été dernier, on se disait, on parlait de maintien. On se disait avec la vidange de l'effectif, les finances. Ouais. Tu te dis. Donc, ce qu'ils ont accompli, c'est proprement exceptionnel. Ils vont finir, s'ils finissent quatrième, ils vont réussir à être déçus, alors que tu leur aurais dit,
font les barrages.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, par rapport à la position, en effet, il y a cette défaite à Toulouse. Mais ce qui est bien, c'est que pour une fois, cette troisième place, et je pense aux exemples de l'OM, de Monaco, ce sera pas une déception, ce sera vraiment un accomplissement, quoi. Je veux dire, une réussite pour Lille, et encore à fortiori pour Lyon. Rennes peut encore y croire, mais il faudrait que les deux perdent devant et que ça batte l'OM. Ouais. Mais ce que Lyon a accompli cette saison, c'est quand même absolument prodigieux, et ça doit laisser de l'espoir.
Ça fait prochaine. Deux saisons, hein, puisque l'année dernière en Ligue des Champions.
C'est ça.
Lille, ils ont fait un parcours en Ligue des Champions.
Ouais, bien sûr.
Il y a
une forme de continuité, évidemment, pour Lille et de ce projet, même si on ne sait pas si Bruno Genesio va continuer sur le banc du LOSC. Un dernier mot quand même, messieurs, parce qu'il y a un club en danger. Il y a plusieurs clubs en danger, évidemment, en cette fin de saison, mais c'est Nice, qui a un match très important à jouer face à Metz. Nice, qui est actuellement 16e et donc barragiste dans cette dernière journée. Ils vont tenter de se sauver. Il y a beaucoup de pression, quand même, sur les épaules de Claude Puel et toute l'équipe niçoise. Est-ce que vous voyez Nice barragiste à la fin de la saison et potentiellement en Ligue 2 la saison prochaine?
En Ligue 2, honnêtement, pour avoir suivi très près les barrages d'accession, parce que Rodez a fait un parcours fabuleux et c'est un club que j'aime.
Il l'a placé.
ils vont jouer Saint-Étienne. Franchement, Saint-Étienne, ce qu'on a vu sur la fin de saison, ils sont dans une spirale compliquée et encore plus pour Auxerre, mais Nice est quand même au-dessus. Nice est quand même au-dessus, quoi qu'il arrive. Par contre, est-ce que Nice va jouer les barrages? Ben non, parce que je pense qu'Auxerre
moi, je pense pas. Auxerre,
va s'incliner à Lille.
Et surtout, tu reçois Metz à la dernière journée.
Tu reçois Metz qui est perdu.
Donc, Auxerre, barragiste.
Bien sûr, mais par contre, Auxerre devra s'appliquer. Mais je vois pas comment le troisième de Ligue 2 va pouvoir monter en Ligue 1 parce qu'il y a un tel écart sur le terrain.
Attention, Jérôme.
Au niveau du football,
ils ont deux attaquants devant qui sont on fire en ce moment.
Depuis deux matchs, mais c'est vrai que les deux derniers matchs ont donné le bon moment. Et Saint-Étienne est
pas dans une bonne spirale. Donc je pense que celui qui jouera les barrages de Ligue 1. Alors peut-être que Nice a plus à s'inquiéter, mais ils jouent Metz. Enfin, je vois pas comment ça peut arriver. Et honnêtement, Auxerre Saint-Étienne sur deux confrontations. Il n'y aura pas de surprise.
Après, c'est quand même fou d'avoir ce débat aujourd'hui sur Nice. Ça paraît normal de parler de maintien pour Nice, Ineos, mais quand on parlait aussi de projet tout à l'heure, voilà, à l'image olympique de Marseille, on est quand même encore pire.
Mais Ineos est en train de se retirer d'à peu près tous les projets. Moi, je serais encore plus inquiet pour Nice dans les années à venir parce que vous savez qu'ils sont aussi partenaires d'une équipe cycliste et ils cherchent. Aujourd'hui, ils ont fait co-naming avec le groupe Total. Une nette compagnie est arrivée pour soutenir l'équipe cycliste. Et on entend de plus en plus fort qu'ils cherchent à sortir de l'investissement dans le cyclisme. Donc attention à l'OGC Nice qui peut vite être en difficulté.
Et Nice qui va aussi avoir la tête à la finale de la Coupe de France. Ce sera le 22 mai prochain au Stade de France face à Lens. Et on vous fait d'ailleurs gagner deux places pour la finale sur RMC. Pour ça, vous envoyez finale au 7-32-16. Finale au 7-32-16. Je vous rappelle, le tirage au sort, ce sera tout à l'heure vers 11h30 dans les grandes gueules du sport. Dispositif exceptionnel ce soir pour vous faire vivre sur RMC cette dernière journée de Ligue 1 multiplex à 21h avec Jean-Louis Tour, avec tous les reporters sur place et puis l'after évidemment dans la foulée pour les débriefs, after exceptionnel jusqu'à minuit et demi ce soir. 9h45 sur RMC, les grandes gueules du sport reviennent tout de suite, une petite pause et puis on se retrouve juste derrière pour le zapping. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. 9h49 sur RMC. Merci d'être avec nous dans les grandes gueules du sport. Toujours au rendez-vous tous les week-ends de 9h à midi avec Jérôme Pinault, Pascal Duprat, Julien Beneteau et Simon Dutin. On vous rappelle le WhatsApp pour nous laisser vos petits messages au 06 12 424 424. Il est à 9h49. C'est l'heure de zapper un petit peu.
RMC. Le zapping des grandes gueules du sport.
Les GG, on s'en fout pas. José Mourinho, futur entraîneur du Real Madrid à la place d'Alvaro Arbeloa. Simon.
On s'en fout pas.
Pascal.
On s'en fout pas.
Julien.
Je m'en fous, il vient de dire qu'il y a 99% de chances qu'il reste au Benfica. À l'instant. Donc je m'en fous. Puis en plus, le Real, en ce moment, je m'en fous.
Jérôme.
Je m'en fous parce que je vais laisser parler les copains.
D'accord. Bah, j'ai envie d'écouter le coach là-dessus, Pascal. Je rappelle quand même le contexte, c'est la presse espagnole qui annonce que Mourinho est le futur entraîneur du Real Madrid à 99,9%. Je te bats sur les pourcentages, Julien. Alors que les noms de Didier Deschamps ou même Jürgen Klopp étaient évoqués, ce serait finalement le special one que la direction madrilène choisirait. Coach du Benfica cette saison, il retrouverait le banc de Madrid depuis 2013. Et vous allez écouter d'abord Arbeloa qui lui-même l'a adoubé quelque part en conférence de presse.
Je ne comprends pas et je ne partage pas qu'on dise que le vestiaire est ingouvernable. Le club prendra une décision pour l'entraîneur de la saison prochaine quand le moment sera opportun. Pour moi, comme joueur et madrista, Mourinho est le numéro 1. Je le pensais déjà il y a un mois et je continuerai de le penser. C'est et ça sera toujours Unai Linoy. S'il est là la saison prochaine, je serai très content de le voir à la maison.
Si él es el que está aquí la temporada que viene, pues estaré muy feliz de verle de vuelta en casa.
Alors Pascal, bonne idée d'aller rechercher José Mourinho alors que clairement il n'a plus rien du special one de ses grandes années.
Alors je vais le dire comme je le pense. Il est certain que si c'était Didier Deschamps, ce serait préférable parce qu'il est davantage contemporain. Mais cela dit, dans l'état actuel du vestiaire du Real Madrid et surtout dans la désarticulation tactique du Real Madrid, franchement, Mourinho, ça serait pas une mauvaise idée. Parce qu'en fait, l'équipe, elle jouerait ensemble. Et défensivement, ça serait probablement bien mieux. C'est pas dur, me direz-vous, mais ça serait probablement bien mieux. Et puis, comment dire, peut-être que c'est ce type d'entraîneur-là qu'il faut à Kylian Mbappé pour qu'il remporte des titres avec son club. Ah. Parce que Mourinho est celui qui a remporté le plus de titres de tous les entraîneurs encore oui. en exercice. Il ne faut pas l'oublier, même si c'est moins probant depuis quelques années.
Et puis, oui. juste pour compléter, c'est un mec clivant et qui, en effet, n'entraîne plus des top clubs comme il a eu l'habitude de le faire. Mais tu l'as rappelé, bon, il y a peu d'entraîneurs.
Là, on rappelle quand même qu'il vient d'échouer à qualifier le Benfica pour la prochaine oui. Ligue des Champions.
The Special One, mais tout de même, je veux dire, c'est pas devenu un pimpin. Il est parfois devenu une caricature à
Merci Simon.
De lui-même, mais je pense que dans l'état actuel de délabrement du vestiaire de Madrid, même un José Mourinho un peu caricature du meilleur entraîneur du monde qu'il a été, je pense pourrait faire du bien à quelques vedettes.
Et souvent unanimement apprécié de ses joueurs.
Hein, dans Alors, souvent ça... la première année, la deuxième,
ouais, après, ça,
c'est
voilà.
un petit pitch pour la suite.
On voilà. vous a entendu, il faudrait du caractère à Madrid. Allez, on zappe. On s'en fout pas. Les GG, Yannick Sinner qui signe une 33e victoire de rang en Masters 1000, améliorant encore un peu plus son propre record. Jérôme.
Non, je m'en fous pas.
Simon.
Je m'en fous.
Pascal.
Je m'en fous, j'aurai pas la parole.
Mais bien sûr, il sait Julien. Pascal comme moi.
Je m'en fous pas, je m'en fous pas.
Alors, le numéro 1 mondial qui s'est qualifié hier pour la finale du Masters 1000 de Rome en venant difficilement à bout quand même, hein, de Daniil Medvedev. Il tentera aujourd'hui de remporter le seul Masters 1000 qui lui manque face à Casper Ruud, le tout à une semaine de Roland-Garros, dont il est le grandissime favori et qu'il n'a encore jamais remporté. Julien.
Non, je m'en fous pas parce que tu as tout dit dans la présentation, il est en train d'établir des records. Je savais pas que il lui manquait déjà plus qu'un seul Masters 1000.
Ah si.
Et donc je pense qu'il va en
non,
plus.
Je viens pas toi.
Ouais, non, mais en fait, je suis très mauvais au tennis.
Bizarrement.
Je dis rien.
Mais je pense qu'il va gagner en plus cet après-midi contre Casper Ruud. Et à une semaine de Roland, ça va encore plus le mettre.
Belle prise de risque. Je pense qu'il va gagner cet après-midi.
Non, mais ça va le mettre encore plus dans
ouais,
le
franchement, ouais, franchement, Julien,
je te vois.
Oh, putain, la nouvelle que tu nous annonces.
Il s'est mouillé, là.
Je viens d'avoir des frissons, Léon.
Vous voulez que je vous dise quoi? Alors il a un peu galéré parce que les conditions à Rome ouais. étaient pénibles cette semaine. Beaucoup de pluie, de froid. Bah, t'as bien vu sur le Giro.
Exactement.
Voilà.
Comme au Giro.
Exactement.
Mais donc, on s'arrête pas par contre, on tire pas la balle, ça continue, t'as vu?
Mais non, on pourrait continuer, mais avec un toit. Et voilà, non, mais qu'est-ce que je voulais dire?
Il est en train d'écrire l'histoire aussi du tennis oui. mondial. Et moi, ça m'a un petit peu interpellé, mais il n'a que 24 ans.
Non, mais il a que 24 ans. Et donc, en fait, on se rend plus compte parce que.
On a banalisé aussi.
Non, mais on sort d'une ère où il y a eu les trois meilleurs joueurs de l'histoire en même temps. Et là, Alcaraz, Sinner, ils sont en train de banaliser des choses que certains grands noms n'ont jamais réussi à faire.
Ouais.
Et Sinner à Roland, il joue pour gagner, pour faire son grand chelem à lui. Donc s'il gagne Roland, il aura gagné les quatre tournées du grand chelem.
À 24 ans.
Et ça, il y en a dans l'histoire du tennis, les Becker, les Hedberg, les Sampras, ils n'ont pas réussi à le faire.
Il n'y avait pas plus de joueurs qui pouvaient gagner qu'à l'époque de Sinner. Tu vois, la densité, il y a non, peut-être plus de prétendants.
Ça, c'est difficile de comparer les époques.
Sinner, Alcaraz, je pense qu'ils sont plus fort que ce qu'il y avait.
Mais derrière,
les mecs de 3 à 15.
Il y a plus d'écart.
Il y a plus d'écart. Les mecs étaient un peu meilleurs.
Il n'y a pas de régularité derrière eux non plus. Parce que là, aujourd'hui, tu te dis, il va à Roland, il y a qui va l'ennuyer, en fait.
Ouais. Là, c'est
peut-être
compliqué.
T'en as un, et puis de temps en temps, mais c'est pas très régulier. C'est ça qui
Exactement.
Fait. Après, moi, je suis pas un grand fan de Sinner, évidemment, vous le savez, mais j'admire par contre sa régularité sa capacité à aller où il veut aller et à écraser et à dérouler. Ça, c'est une machine, ce mec. Il y a que l'italien dans la nationalité parce que il est imperméable à l'émotion.
Ah bah, il est italien que par le passeport.
Exactement. Hein,
il
est, c'est Machina, non? Machina, c'est
ouais, italien. Mais tu sais, l'italien a toujours un peu des moments où ça, le sanguin. On a vu l'autre jour, je sais plus quel joueur, même pas oublié le ramasseur de balles et s'occuper plutôt de sa paire lunette là. Bon, lui, c'est pas ça. C'est pas dans le show. Il déroule.
Ouais. Il est dans sa personnalité.
Il est plutôt dans le froid.
Effectivement. Pascal, allez, on zappe. Les GG, on s'en fout pas du retour de la superstar du MMA Conor McGregor à l'UFC le 11 juillet prochain après 5 ans d'absence. Simon.
I don't care, mate.
Oh, wow, j'ai l'impression que je vais avoir une tablée négative.
J'ai tenté l'accent
Jérôme.
McGregor.
Je m'en carre complètement, je m'en fous.
Très bien. Julien.
À toi, Flora.
Pascal.
Flora, ça m'inspire pas, moi.
Ah non, la mousse,
bah, ça fait... J'ai tenté. C'est l'information de la vie, hein. Si je peux me permettre, c'est l'information de la vie. Je vous pose le contexte parce que c'est.
Pose-nous le contexte. Voilà.
Effectivement, c'est le patron de la plus grande organisation de MMA au monde, qui est donc l'UFC, qui a annoncé que Conor McGregor, double champion dans deux catégories différentes, va remonter dans la cage 5 ans après son dernier combat. Il sera opposé à une autre légende en plus de la discipline, l'Américain Max Holloway. Ce sera le combat principal de cette carte qui aura lieu le 11 juillet prochain. Et sachez que sur cette carte aussi, en deuxième combat, on retrouvera un Français. Allez, je vous écoute.
Cyril Gane ?
Non, mais non, il combat au mois de juin.
Elgado ? Pardon, Elgado ?
Non. Benoît Saint-Denis.
Ah, voilà, c'est le troisième.
Oui, c'est ça. Benoît Saint-Denis face à l'Anglais, Paddy Pimblett.
Flora, toi qui es une spécialiste, dis-nous, est-ce qu'il a une chance, la moindre chance de... C'est du
si
marketing,
vous voulez qu'on soit spécialiste. Alors, en plus, le combat va se dérouler dans la catégorie de poids au-dessus, puisque Conor McGregor ne peut plus faire le poids de sa catégorie initiale. Donc c'est pour vous dire
c'est
aussi.
Ça, il s'est un peu laissé aller, papa. Il est...
Légèrement, il y a eu quelques petites affaires judiciaires.
Il aime bien la bière, l'Irlandais.
Et le whisky, je crois aussi.
Après, il faut juste comprendre que l'UFC, comme n'importe quelle organisation mondiale, c'est du marketing, c'est du business, et que ce combat va faire vendre énormément aux États-Unis et partout dans le monde. Donc voilà, fallait donner quand même l'info ce matin. Ouais, même si les GG s'en foutent, je vous ai donné l'info. 9h58 sur RMC. On revient dans quelques instants dans les grandes gueules du sport. On va parler du documentaire Netflix sur Nice Na et notamment de Raymond Domenech. Un entraîneur peut-il détester ses joueurs? Et puis Jérôme Pinault mettra sa casquette de captain pour nous parler de Paul Magnier. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.